Bleu RCFM.
France Bleu.
Qui est là?
Hal.
Hal qui?
Alors tout le monde, nous allons jouer le jeu de Top Top.
RCFM, 17h-18h, Marie Bronzy.
Top Top.
Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur RCFM et dans votre émission Toc Toc. Ravie de vous retrouver enfin après cette longue semaine de vacances. Nous allons parler du Grand Bleu avec des passionnés de plongée sous-marine et de photographie. Ils partent ce mercredi pour une longue expédition de 9 jours en Arctique. Ils viennent nous en parler ce soir jusqu'à 18h.
Toc Toc.
Mercredi, ce sera le grand départ pour Tony Viacard, Marc Valicioni et Anthony Nizri. Bonsoir à tous les trois, merci d'être là.
Bonsoir.
Stéphane Le Gallet est également là, bonsoir avec
bonsoir,
nous.
Marie.
Et c'est important parce que vous allez expliquer, Tony, comment vous avez rencontré Stéphane, qui est photographe et qui fait de la photographie sous-marine depuis un long moment, mais pas que. Et vous, vous étiez passionné de plongée et de photographie terrestre. Et comment les deux se sont liés?
Alors, comment on s'est rencontrés? C'est que au cours d'un baptême de plongée, j'ai rencontré Stéphane parce qu'il est venu faire de la photo. Il faisait de la photo déjà depuis longtemps, et il est venu nous photographier. Donc déjà, ça m'a donné un petit peu, ça m'a donné l'idée de faire ça. Et en même temps, quand j'ai commencé un petit peu à regarder ce qu'il faisait au niveau des épaves et au niveau des photos, je me suis dit, ça a commencé à m'intéresser. Et puis
parce
après...
que la réalité, c'est que vous, Tony, vous avez toujours nagé, plongé, fait de la chasse sous-marine. Vous êtes fils de pêcheur.
Ben, moi, je suis fils de pêcheur, donc j'ai eu toujours ce contact avec la mer. Du jour où j'ai commencé vraiment à faire de la plongée sous-marine, justement au cours de ce baptême, je me suis...
C'est un cadeau qu'on vous fait, en fait?
C'est ça. C'est ma femme qui me fait un cadeau pour nos 1 an. Et ce jour-là, j'ai eu vraiment, vraiment le coup de foudre.
Et vous étiez là, vous, ce jour-là? Stéphane.
J'avais proposé à Karine, que je connais, sa femme, que je connaissais avant Tony et Tony, de les prendre en photo pour leur baptême. Et Tony, bon, étant passionné de photos, avait une petite GoPro à l'époque pour faire quelques images. Et au sortir de l'eau, je lui ai montré les photos qu'on faisait avec un appareil, les photos avec une GoPro. Et là, il m'a dit, oh, ben, c'est ce qu'il me faut. Il faut tout de suite que... Ben, Tony, c'est comme ça. Hein, il essaye une voiture, il achète. Il a essayé l'appareil, il a acheté. Et après, il est monté en gamme tout de suite. Hein.
Alors, vous l'avez suivi? Comment ça s'est passé? Vous l'avez harcelé de questions?
Alors, pas du tout. Au départ, je ne l'aimais pas.
c'est vrai.
Au départ, la première rencontre, je me suis dit, bon, je ne l'aime pas. Ce mec, je ne l'aime pas. Et puis, au fil du temps, c'est devenu comme un frère. Donc, après, on a commencé à se connaître, on a commencé à plonger ensemble. Il a commencé à me montrer un petit peu comment on faisait des photos sous l'eau. D'ailleurs, si aujourd'hui j'arrive à faire entre guillemets de belles photos, c'est grâce à lui, parce que la photo terrestre et la photo sous-marine sont deux choses complètement différentes. Donc, je faisais de la photo terrestre et la photo sous-marine, les cadrages, les réglages, tout ça, ça n'a rien à voir. Donc, du coup, Stéphane m'a vraiment, vraiment ouvert son cœur et ses réglages. Donc, ce qui m'a permis de m'améliorer de jour en jour et aujourd'hui de faire, essayer de faire de belles photos.
Vous avez fait une très belle exposition l'année dernière et puis moi j'invite nos auditeurs à aller sur vos pages Facebook respectives, que ce soit Stéphane Le Gallet ou bien Tony Viacard, parce que vous allez découvrir de très très belles photos. Et vous alors, Marc Valicioni, on vous connaît comme coureur automobile célèbre et vous continuez à courir. Il y a très peu de temps là, vous étiez en plein boulot et vous êtes aussi plongeur.
Exactement. Donc moi, je suis un peu attiré et passionné. Je suis à la base un passionné, un amoureux de la vie, mais surtout un passionné. Et je suis attiré par toutes les immensités. Donc aussi bien que ce soit la vitesse, le ciel ou la mer, je plonge depuis des années. Et puis j'ai eu la chance de rencontrer, il n'y a pas très longtemps, Tony et Stéphane. Et puis en fait, aujourd'hui, je suis devenu leur porteur de lampe. Donc j'apprends beaucoup de choses. Je n'ai pas du tout leur technique et encore moins le temps de me lancer en plus dans la photographie. Mais j'ai la chance, à l'inverse, de pouvoir plonger avec eux et puis de bénéficier du résultat de ce qu'ils nous apportent.
Techniquement, porteur de lampe, qu'est-ce que ça signifie? Parce qu'on sait bien que la lumière est extrêmement importante lorsqu'on fait de la photographie terrestre, on va l'appeler comme ça maintenant, pour bien faire la différence. Il y a de la mise en scène, c'est compliqué, il faut des filtres, il faut des réflecteurs ou je ne sais quoi. Et sous l'eau, ça se passe comment?
Alors sous l'eau, nous on est équipé avec Tony d'appareils photo et de lampes très très puissantes avec des ouvertures à plus de 120 degrés. Donc en fait, quand on est face à nous, on a l'impression qu'on est en plein phare. D'ailleurs, nous on fait de temps en temps coucou aux gens, mais ils ne voient pas du tout parce qu'on aveugle complètement les gens. Par contre, nous prendre nous deux en photo, c'est pas possible parce qu'on a cet éclairage qui est très puissant et qui va nous aveugler. Et là, l'intérêt de Marc, c'est que Marc, il a une lampe qui est un faisceau, comme un espèce de laser, et quand on est sur des épaves, parce que moi je suis surtout un plongeur de tôle, un plongeur d'épave, ça donne une sensation à la photo, une impression à la photo qui est vraiment magique. Et là pour Marc, c'est vraiment le pied quand on est avec lui, parce qu'on n'a même pas besoin de lui expliquer ce qu'on veut, il tourne autour de l'épave avec son faisceau, il dessine, il fait comme un dessin dessus, et nous ça nous permet, Tony d'un côté et moi de l'autre, de faire des photos. Mmh. Surtout qu'on a l'œil pour les épaves avec Tony, mais on peut regarder les photos ne sont pas les mêmes. On a des vues différentes et c'est vrai que ça donne une valeur ajoutée à la photo.
C'est ce que vous dites, Marc. Vous dites qu'ils sont extrêmement complémentaires.
C'est ça, tout à fait. On a la chance de les avoir tous les deux dans un registre complètement différent. Et ça permet, et puis même pour les spectateurs, et puis pour les gens qui ont la chance de pouvoir regarder leurs images, d'avoir des choses complètement différentes et ils sont complètement complémentaires. Et puis, les épaves, parce que j'ai la même passion que Stéphane, je suis attiré énormément par toutes ces épaves. Mais en plus, on a eu l'occasion de faire des photos dans un autre registre qui est la natation artistique. On a eu une anecdote, on est resté 5 heures sous l'eau dans une piscine pour faire des photos d'un club de natation synchronisée. Et ils ont fait tous les deux des choses, mais complètement différentes et qui ont été appréciées aussi bien d'un côté que de l'autre.
Comment vous préparez la lumière? Après, on parlera de la plongée, de la sécurisation de la plongée, ce qui est important. Et Anthony Nizry interviendra pour nous expliquer comment vous procédez. Mais vous travaillez avant? Vous pensez à des choses pour la lumière? Ou vous plongez, vous connaissez tellement que vous savez où aller? Vous savez
absolument
comment?
Absolument pas. En fait, c'est juste de la recherche, moi. Et en fait, c'est Stéphane qui m'a observé et puis qui a trouvé un intérêt au simple fait que je me balade avec mon faisceau. Mais moi, à mon niveau, j'ai aucune préparation, aucune technique, aucun savoir. C'est juste, moi, le plaisir de découvrir, de regarder.
Et un peu l'instinct?
Et un peu l'instinct de la recherche, parce qu'on est toujours en quête du petit détail qui fait que le petit numéro de série sur l'aile de l'avion que Tony a trouvé d'ailleurs récemment sur un avion qu'on avait déjà plongé plusieurs fois, de la petite bestiole qui est cachée, etc., etc. Et en fait, on a trouvé une complémentarité, mais qui n'était absolument pas recherchée au départ, quoi.
Et alors, de la vitesse de la course automobile au calme des fonds sous-marins, C'est de la détente pour vous, c'est...
Tout à fait. Alors moi, je suis plutôt attiré par les plongées profondes. Donc,
il faut quand même un peu de danger pour Marc Madichon.
Mais... Voilà, il faut qu'il y ait un minimum. Je suis attiré par... Et c'est vrai que c'est ce monde du silence et puis cette tranquillité qu'on trouve au fond, moi j'en ai besoin. Donc ça me détend énormément. Et puis j'ai des petits problèmes de sommeil. Et en fait, je dors bien quand je fais des plongées profondes.
Tony Viacard, il y a 5 ans, lorsque vous passez ce baptême de plongée pour maintenant faire des expéditions et plonger parfois à 70 mètres de profondeur, donc installez vite pour vous, heureusement que vous avez toujours été dans l'eau.
Faut pas le dire, 70 mètres, faut pas le dire.
65 mètres, c'est
60.
Ça
60,
60, pardon. 60. Mais parce qu'il le fait pas à 70, vous non plus.
Non, on fait 60. 72, 75, non. 80, mais pas à 60.
Moi, je m'arrête à 60.
Et ce que je voulais savoir, c'est est-ce que vous étiez sensible à ce moment-là, il y a 5 ans, à notre écosystème, à la faune, à la flore?
Alors, pas du tout. Pas du tout. Le fait d'avoir fait de la plongée et d'avoir fait des rencontres un peu partout dans le monde, je dirais, et ces rencontres-là m'ont permis de découvrir la faune, la flore, chose que je faisais pas avant, puisqu'avec Stéphane, on fait beaucoup de tôles, comme il a dit.
Vous connaissiez un peu les poissons?
Oui, les poissons, je les connais, parce que bon, fils de pêcheur, si je dis que je connais pas les poissons, je pense qu'il y a tout le marché de Bastia qui va me tomber dessus. Après, bon, Stéphane mange beaucoup, donc je sais ce qu'il mange. Mais non, et plus sérieusement, c'est que non, je connais les poissons de chez nous, mais je connaissais pas les poissons qu'il pouvait y avoir ailleurs. Donc du coup, par justement les rencontres que j'ai faites, ça m'a ouvert des portes et la chance de pouvoir plonger avec des mammifères, que ce soit des baleines à bosse, que ce soit des orques, que ce soit des cachalots, et bien d'autres, des requins marteaux, des longicéphales avec Anthony. Donc,
ça, c'est le frère ou le cousin du Grand Blanc, genre.
Tout à fait. Ouais, un petit cousin. Un petit cousin. Surtout quand on le voit arriver, c'est un des plus méchants. C'est un des requins les plus méchants. Donc, bon, il faut faire attention. Mais on a plongé sans cage. Donc, bon, voilà quoi. Mais, voilà, mais ce qu'il dit Stéphane, c'est que ce que je te disais tout à l'heure, c'est que les gens pensent que chez nous, il n'y a pas toute
cette variété.
Voilà, exactement. Chez nous, à savoir qu'on a des requins, on a des baleines, on a des cachalots, on a des dauphins, on a un.
Est-ce qu'on a de plus en plus, Stéphane, de variétés qui viennent des mers du Sud, parce que réchauffement climatique
Oui, tout à fait. On a ce qu'on appelle les espèces invasives, oui. Qui arrivent tout doucement. Donc là, il y a pas très longtemps, il y a à peu près 3 semaines, 1 mois, avec Tony, on était sur l'étang et on a vu des crabes bleus. Donc ça, c'est le crabe qui arrive, hein, qui n'était pas un austral, qui est un prédateur et qui détruit beaucoup de choses. Après, d'autres espèces, le barracuda, hein, c'est pas un poisson de chez nous non plus. Hein. La coryphène, par contre, oui. Alors, parce que les gens, quand on fait des photos avec Tony de rats de coryphène, les gens pensent que ce sont une espèce exotique, pas du tout, hein, parce qu'on retrouve des fresques romaines dans le bassin méditerranéen qui représentaient déjà ce poisson-là. Mais effectivement, il y a des espèces invasives et elles arrivent, elles rentrent par le détroit de Gibraltar, elles rentrent par le canal de Suez, elles rentrent de partout et c'est au détriment d'autres espèces. Hein. Ça, c'est un problème.
On se rend compte que la mer, que les profondeurs ont changé, en tous les cas en Méditerranée ?
Alors moi, je constate que j'ai posté il y a pas longtemps une photo de poulpe en disant que je n'en voyais plus, ou très très peu. C'était devenu très rare et je dis que c'était le mérou qui mangeait le poulpe. Parce que des mérous, on en a énormément. Je parle de la Corse, je parle pas du continent.
Bien sûr.
Alors là, ça a développé énormément, chacun a son avis, etc. Moi, c'est un constat, c'est un fait qu'on voit avec Tony sous l'eau, avec Anto ou avec Marc. On s'aperçoit que les trous à poulpe sont vides aujourd'hui. Par contre, des mérous, il y en a partout. Donc je me pose la question, c'est pas la pêche a toujours existé. Par contre, il y a quelques années, il y a une dizaine, quinzaine d'années, on marchait dans l'eau, sur le sable, on avait un poulpe qui venait s'accrocher à son pied. Aujourd'hui, ça n'existe plus, ça. Ça n'existe plus. Donc moi, je mets ça sur le mérou. Et le mérou, qu'est-ce qui se passe ? C'est une espèce protégée aujourd'hui. Qui dit protégée, elle est plus pêchée, sauf par les pêcheurs professionnels puisqu'ils ont les autorisations. Mais ça veut dire qu'il y a un développement exponentiel du mérou. Et moi, ce que je vois sous l'eau, c'est qu'on voit du côté de Bastia, on ne voit plus de langoustes, on ne voit plus de poulpes, ce qu'on voyait avant, et des cigales aussi. C'est maintenant devenu très très rare.
Alors évidemment, on en parlera de la pollution sous-marine, puisque vous l'avez constaté, vous m'avez dit hors antenne que finalement la Méditerranée, bien sûr qu'elle est polluée, mais c'est pas forcément la mer la plus polluée, en tout cas à travers le monde. On en reparlera avec vous tous. Dans un instant, on accueillera Cécilia Cantelli, qui, elle, est allée dans la rue et a réalisé un micro-trottoir pour demander aux gens s'ils trouvaient que justement notre mer était polluée. Restez bien avec nous, puis n'hésitez pas à aller sur les pages Facebook de Tony Viacard et de Stéphane Le Gallet pour voir, découvrir leurs merveilleuses photos. Et puis on parlera évidemment, non c'est vrai, on parlera de vos expéditions. Première expé d'ailleurs, c'était quand ?
L'année dernière, à la même époque.
Et c'était ?
En Arctique.
Incroyable, et on y retourne. Donc y retourne. Mercredi, puis il y en aura une, je crois, avec vous, ce sera en Égypte au mois de mai.
Là, on part toute une bande, on va essayer même d'emmener Thomas, parce qu'il devrait nous faire la distraction le soir quand on sort de l'eau.
Thomas, mais qui est Thomas ? Vous savez que nous sommes à la radio, les gens ne savent pas forcément qui est ce garçon.
Thomas Bronzini,
donc on essaie qui de nous rejoindra motiver, tout à l'heure.
Voilà, oui. On essaie de motiver Thomas pour qu'il vienne avec nous pendant l'expé.
Pour faire des mash-ups et chanter des chansons.
Voilà, exactement. Non, ça devrait être une belle croisière, hein. On devrait bien s'amuser.
Bon, et ramener évidemment de très belles photos. Une expo suivra avec l'expédition en Arctique ?
Oui, je pense que quand je rentrerai, si... Alors, à vrai
si
dire, c'est que... Ouais, si je rentre, déjà. non, à vrai dire, c'est que l'année dernière, j'ai fait énormément de photos. Et là, cette année, je voudrais faire des photos complémentaires parce que je connais un petit peu mieux le site de là où on va se trouver. Et je pense que quand je rentre, si les conditions météo le permettent, on va faire de belles photos, on va faire de belles réalisations et on fera ça quand on rentre.
Vous restez bien avec nous jusqu'à 18h sur RCFM. Stéphane Le Gallet laissera sa place à Anthony Misery qui nous expliquera comment on sécurise un plongeur qui est en train de photographier. C'est pas si simple lorsqu'on a l'œil dans l'objectif de penser à tout ce qui se passe autour.
Resto a guardare il mare, l'immenso mare, e sento giungermi nel cuore un'onda d'amore infinita. Vorrei in riva al mare, amor, con te sognare. L'ebbrezza languida provare di darti in un bacio la vita, ma tu in riva al mare che fai, non vuoi parlare, in te non senti un mar d'amore che giunge a me. Resto a guardare il mare, l'immenso mare, e sento l'anima vibrare nell'onda d'amore.
De plongée sous-marine et de photographie d'art avec Stéphane Le Gallet qui est avec nous, Tony Viacard. Stéphane a laissé son micro à Anthony Misery, donc qui est le monsieur sécurité de cette expédition. Marc Valichon est avec nous. Nous ne parlons pas de course automobile, mais bien de plongée sous-marine. Ils partiront tous les trois, Marc, Anthony et Tony, mercredi pour une expédition en Arctique. Il y en avait une l'année dernière et vous repartez cette année. Vous faites Oslo, Paris-Oslo, pardon. Ensuite.
Oslo.
Ah ouais, super. Je l'ai noté. Allez, je vais le chercher. C'est facile.
Non, on en a
Oslo-Tromso.
Oui, c'est ça. Et après ?
On fait Francfort avant.
Ah, bah oui, mais ça nous en fiche, nous. Ça nous intéresse pas.
Après,
ça.
On fait Tromso.
On pas à Francfort. Ouais.
Après, on fait Tromso-Skarvoy.
Avec des saucisses. Après.
Et ensuite, il y a donc le bateau de l'expédition qui descend nous chercher au port de Skarvoy et qui nous monte jusque dans le cercle arctique.
Et où allez-vous dormir ?
À vrai dire, il y a là, dans le fjord de la base arctique, il y a des petites maisons. On les reconnaît parce qu'elles ont des toits rouges. Et il y a quatre maisons et on va être logé dans ces maisons-là. Donc, c'est assez Ouais, on va partager la chambre avec Anthony et Marco.
Bon, bah, évidemment, on se dit, ça doit coûter très cher un tel voyage. Alors même si on ramène des photos, même si on fait une exposition, est-ce que il n'y a pas des associations qui commencent à se rapprocher de vous, notamment des associations écologiques? Je sais que vous faites partie de l'association Un Océan de Vie, mais est-ce que vous n'avez pas envie justement que des gens s'intéressent à vous, à votre travail? Vous n'êtes pas si nombreux à faire de telles expéditions.
Chez nous, c'est très très dur. À vrai dire, j'avais fait la démarche avant de partir. Bon, les gens, ils vous écoutent, mais bon, c'est pas
ils
pour autant.
Ils savent pas, ils sont pas sensibles.
Non,
forcément.
Mais c'est même pas pour autant. Ils font pas trop l'effort de vous aider. Donc, à part le club de plongée de Saint-Ambrouge, d'ailleurs, je vais en profiter pour le remercier. C'est David Doga. C'est le seul qui a cru en nous dès le départ et qui nous a toujours aidés pour faire ce genre de choses. Et voilà, donc après, on a fait des...
Mais de quelle manière? En vous sponsorisant avec du matériel?
Oui, voilà, David nous donne ce qu'on a besoin. Là, par exemple, voilà, on va partir, on a des détendeurs exprès pour aller dans le froid, parce qu'à tel degré, l'air gèle dans l'eau, donc il nous a gentiment commandé tout ce qu'il fallait. Voilà, après... de la façon dont on travaille pour partir sur des expéditions comme ça, c'est que moi, par exemple, pour cette expé, je vais donner mes photos. Il y a une association qui est en Norvège, qui s'appelle Norwegian Orca Survey. Mes photos que je vais faire, je vais leur donner gratuitement, parce que ces gens-là font du recensement photographique des mammifères. C'est-à-dire que ces photos vont servir à identifier les baleines, les orques et tout ce qu'on peut croiser là-bas.
D'accord, donc ça c'est une manière, voilà, comme ça, de faire du compagnonnage.
C'est ça, tout à fait.
Et lorsque vous embarquez, par exemple, comme cet été, sur un bateau en Méditerranée, on vous invite, comment ça se passe,
c'est
ce
ça,
genre de connexion?
C'est ça, bon, pour cette expédition-là, par exemple, c'est le deal, c'est que Stéphane et moi, nous sommes invités, parce qu'on va faire des cours photos sur le bateau à des gens qui découvrent la photo ou qui sont un peu plus expérimentés. Et on va essayer, sans prétention, de les corriger, de voir avec eux, de faire des plongées, de leur montrer comment on peut cadrer un poisson, comment on peut faire du grand angle, du macro. Ou... Alors, par exemple, pour revenir...
Quelle était la mission, une seconde, sur ce bateau, cet été? Quelle était leur mission?
Ben, la mission, c'est de quel expédition d'Égypte?
Non, de cet été en Méditerranée.
Alors cet été, j'ai fait partie d'une expédition. C'est un bateau qui était envoyé pour faire des analyses en Méditerranée. C'était une équipe de l'université de Sienne et sur lequel j'ai pu embarquer une journée et partir avec eux justement pour faire du marquage et pour faire des prélèvements de nanoplastiques qui se trouvent dans l'eau. Donc, qui vont après analyser et faire des conclusions par rapport à ça.
Quel est le constat, même si vous n'êtes pas spécialistes les uns et les autres, mais comment elle est, notre Méditerranée?
Après, nous, on n'est pas. Moi, je suis pas biologiste. Ouais. J'essaie de faire voir par mes photos ce qui peut se passer chez nous. Après, on voit des plastiques dans l'eau, on voit un tas de choses, on voit de la pollution. Donc, à partir de là, on peut pas dire que la Méditerranée soit très très propre. Mais si on compare avec d'autres océans, on va dire qu'on n'est pas les plus mal logés, quoi.
Stéphane.
Alors moi, je serais moins modéré que Tony là-dessus parce que je constate depuis quelques années une accumulation de plastique. Alors, dans mes photos, vous verrez jamais des plastiques, vous verrez pas des pneus, tout ce qu'il y a sous l'eau, du parpaing, des batteries, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et bon, j'évite de mettre ce genre de photos parce que c'est des photos à polémique et ça sert à rien, ça n'apporte rien. Par contre, je constate effectivement que du déchet plastique.
Mais ça pourrait sensibiliser, au contraire.
Oui, mais bon, on travaille avec les réseaux sociaux et les réseaux sociaux, ça dit de tout et de rien. Eh oui. Donc, c'est très problématique. Soit on serait dans une association, on pourrait en discuter, etc. C'est pas le cas. Donc là, à travers les réseaux sociaux, ça sert à rien, ça va rentrer en polémique, les gens vont se disputer, ça n'apporte rien, ça n'a aucune valeur ajoutée.
Comme la fameuse histoire de cette île de plastique.
Tout à fait, qui n'existait pas, et je le savais très bien, puisque je suis régulièrement en mer avec Sébri Allan, qui est un pêcheur de thon et d'espadon, où je fais ses photos et ses vidéos avec Tony, on fait ça, et qui nous fait plonger d'ailleurs sur les requins. Hein. On plonge régulièrement sur des requins au printemps en Corse, hein, devant Bastia. Mais le déchet plastique, j'en vois de plus en plus. Et ça vient pas que de l'Italie. ça vient de chez nous aussi. Quand les poubelles ne sont pas ramassées dans la rue, qu'on a un coup de vent comme on a eu cette nuit et ce matin, ben ça part où ? Ça disparaît, on le voit plus, mais ça part à la mer. Ça, il faut pas se cacher, il faut pas se voiler. Ça part à la mer, ce qui dit à la mer, et après ça met des années à être détruit. Et c'est une véritable pollution. Parce que le poisson derrière, il mange le plastique, et nous, on mange le poisson derrière, donc on bouffe du plastique en permanence.
Alors justement, Cécilia Cantelli, bonsoir.
Bonsoir.
Vous vous êtes demandé eh bien ce que pensaient les gens. Il a peur. Stéphane, il se demande s'il a bien fait de dire ce qu'il pensait. Stéphane, vous avez bien fait.
Tout à fait.
Vous avez tout à fait dit ce que vous pensiez et ce micro est fait pour ça. Cécilia.
Et oui, donc je ne suis pas Greta Thunberg, mais j'ai voulu aller parler écologie.
Oh, ça vous irait tellement bien.
Ah bah oui. On n'a pas encore le même âge. Mais j'ai voulu aller parler d'écologie donc dans la rue. Un sujet qui nous concerne tous, comme vous le disiez, c'est très important. Et effectivement, on a tendance, on le sait tout ça, mais au jour le jour, eh bien, ça ne nous vient pas forcément en tête, jusqu'à ce qu'on ait le nez dedans, si je puis dire ça ainsi. Et donc, effectivement, quand on va à la plage ou quand il y a des coups de vent, comme vous le dites, et j'ai voulu demander au Bastiais ce qu'il pensait de la pollution en mer Méditerranée et s'il pensait que c'était l'une des plus polluées ou pas. Et je suis tombée sur cette dame, par exemple.
Oui, ben, c'est un problème, hein. Tous les plastiques, tout ça. Je crois qu'il y a même eu une micro-île de plastique qui se promène quelque part pas loin de la Corse. Du fait qu'elle soit petite et qu'il y a énormément de touristes tout autour de la Méditerranée, je pense qu'elle va être très polluée.
Je vois que c'est sale parce que je suis marocaine et là-bas c'est le contraire, c'est propre. On a l'habitude de la plage propre, sable comme de l'or. Là quand on voit la saleté, c'est choquant.
Non, pas spécialement, non. Non. Je trouve que lorsque j'étais enfant, on était plus touché par des petites boulettes d'hydrocarbures qu'on est touché maintenant.
Il y a beaucoup de plastique dans la mer. Ouais, il y avait beaucoup de trucs, beaucoup de déchets, tout, c'est dégueulasse. Vraiment, ouais, ça me dégoûte de nager dans la mer maintenant, en ce moment-là, ouais. Je suis allée en Algérie, des trucs comme ça, la mer, elle est vraiment beaucoup plus polluée qu'ici. Je suis allée vers l'Inde, ici et là, c'est vraiment beaucoup plus pollué qu'ici. Hein.
C'est un drame international, voilà. Nous sommes responsables et coupables. Toutes les plages sont polluées et les gens manquent tout à fait de civisme, quoi. Qu'importe l'information, les gens s'en foutent, quoi. Complètement. Quand je vais à la plage, à la Réunée, là, tout ça, à la Marane, je vois qu'il y a beaucoup de déchets, quoi. Dommage.
Alors, moi, je pense que c'est dramatique, la pollution en Méditerranée. Surtout que je suis assez jeune, j'ai vu en une vingtaine d'années vraiment la Méditerranée se détériorer. À mon avis, on va atteindre un point de non-retour et c'est là que tout le monde se dira qu'on aurait dû agir avant. On voit beaucoup plus de plastique, moi je fais de la plongée sous-marine aussi. Et quand on est, c'est vrai, quand on va sous l'eau, beaucoup moins de poissons, on trouve de tout sous l'eau, du plastique, des ancres abandonnées, des choses terribles. Et on se rend compte aussi que ça manque d'équipement. Par exemple, il y a des plages qui sont très fréquentées où il y a beaucoup de bateaux, vous n'avez pas de poubelles à disposition pour les plaisanciers, des choses comme ça. Et donc souvent, les gens, par facilité, par bêtise, ben, ils jettent à la mer. Les plus pollués, non, mais étant donné tous les pays du pourtour méditerranéen, je pense que ça pourrait le devenir si on n'agit pas.
Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs, que ce soit Anthony, Marc ou Tony ? Marc, vous qui plongez depuis très longtemps aussi, vous parliez du Cap Corse et de Sagres.
Oui, mais moi j'ai eu la chance, bon, j'ai grandi dans le Cap Corse et je me rappelle qu'adolescent, plonger au Cap Sagres, puis voir des poissons en pleine eau, que ce soit des sardes, des oblades, on voyait de tout. Aujourd'hui, si vous plongez, ben, le constat il est alarmant, quoi. Je veux dire, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Après, de là à dire qu'ici, on est mieux loti qu'ailleurs. J'ai eu aussi la chance d'aller plonger en Crète, où c'est aussi la Méditerranée. La faune et la flore n'est absolument pas identique à ce qu'il y a ici. Donc, il y a aujourd'hui, de toute façon, un impact de l'homme sur l'environnement, en tout cas marin, qui est indéniable. Après, de là à dire d'aller jusqu'au réchauffement de la planète, etc., moi, j'ai d'autres théories là-dessus. Mais ce qui est évident, c'est qu'on a un impact aujourd'hui sur notre environnement immédiat, et notamment la mer.
Stéphane, vous brûlez de répondre.
Oui, alors moi, le réchauffement, il est présent en Méditerranée. Hein, c'est pas un réchauffement énorme, mais effectivement, toutes ces espèces qu'on voyait dans 10-15 mètres d'eau, aujourd'hui, elles sont beaucoup plus profondes. Hein. Pour voir du poisson, il faut aller plus profond. On a ces espèces nouvelles qui arrivent, invasives qui arrivent. Et on s'aperçoit effectivement qu'avec la météo qu'on a aujourd'hui, il y a des grosses tempêtes. Alors, c'est pas du mauvais temps tout le temps ou du beau temps tout le temps. Mais par contre, quand on a des grosses tempêtes, c'est vraiment des grosses tempêtes. Alors nous, on se régale pour faire des photos avec Tony, hein, on est très contents, mais effectivement, des trombes d'eau comme on a eu dernièrement devant Bastia, une trombe qui était gigantesque, qui est même passée à terre, elle est devenue une tornade, puisque quand ça passe à terre, ça devient une tornade. C'est des événements qui se produisent de plus en plus et qui vont être de plus en plus présents.
climat tropical. Oui, vous n'avez pas de micro, Marc Valitchuk.
Oui, on est en train de basculer sur un climat tropical avec le réchauffement de la mer et de tous ces événements.
Et les eaux montent.
Et les eaux montent, mais alors, bon, après, la responsabilité de l'homme à ce niveau-là, moi j'ai d'autres théories, mais il est évident qu'aujourd'hui, de toute façon, il faudra qu'on s'adapte.
D'autres théories, ça veut dire quoi? Que l'homme n'est pas le seul responsable?
Je ne pense pas, je pense que c'est cyclique. Si on remonte dans l'histoire, alors il y a plusieurs études, il y a plusieurs écoles à ce niveau-là, donc il y a forcément un impact de l'homme sur tout ça, mais je pense pas que l'homme ait le pouvoir
soit
le seul responsable. Voilà.
Anthony Nizeri, bonsoir, on vous a pas entendu encore. Vous partez, vous, mercredi, pour cette expédition en Arctique. Quel est votre rôle?
Alors moi, je vais assister Tony quand tu fais la photo, parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser, eh ben, c'est plus compliqué de gérer son air et d'être en sécurité. Et je vais l'assister.
Mais pourquoi, quand on a l'œil dans l'objectif, on peut pas...
On profite pas trop de la plongée. Voilà, comme disait Stéphane, lui va faire ses photos et moi je vais être là à côté, voir si tout se passe bien, gérer sa consommation, voir aussi si on descend pas trop bas, parce qu'il a pas forcément l'œil sur le profondimètre, pour pas justement descendre à 70 et s'arrêter à 60.
Comment vous communiquez?
Avec des signes,
Vous avez l'habitude?
Voilà. Aussi, code.
Ouais. Et puis vous avez l'habitude, vous vous connaissez par cœur.
Ah oui, on se connaît par cœur. Et puis à savoir que dans la plongée, il y a des signes qui sont fondamentaux. Donc quand il me dit stop, c'est stop. Donc je le comprends de suite. Et puis à son regard, je le comprends. Que ce soit avec Stéphane aussi, c'est pareil. On a une complicité aujourd'hui quand on fait par exemple de la plongée, ou surtout quand on va faire de la plongée entre guillemets, qu'on dit engagée. Quand on va descendre profond, on va préparer la plongée avant. Stéphane va savoir exactement là où il va faire ses photos. Moi, pareil, Marc. Et on va le briefer pour dire, voilà, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Anto, il va se mettre à côté et il va nous sécuriser. Donc, on essaye, au-delà de la photo, de faire des plongées en totale sécurité. C'est le plus important. Au jour d'aujourd'hui, c'est pas la photo qui est importante, c'est la sécu. Voilà, donc quand on fait ça, voilà, on se blinde de sécurité. Enfin, on essaye du moins.
J'ai une question un peu idiote, mais lorsqu'on va prendre une photo et qu'on se rapproche d'un animal, lorsqu'on a une bouteille à oxygène, ça fait des bulles, ça fait du...
C'est de l'air.
Ah.
C'est pas de l'oxygène. Dans les bouteilles, on a de l'air. C'est-à-dire que c'est...
Alors, je reprends. Lorsqu'on a une bouteille avec de l'air, ça fait des bulles, ça fait du bruit. Comment on fait pour s'immobiliser?
À vrai dire, on essaie de faire... Moi, je fais des apnées quand j'essaie de m'approcher, d'où ma super consommation d'air.
D'accord.
C'est pour ça que...
Sur une plongée de 20 minutes, des fois, on en fait 5. Non, pas 5, mais...
Mais pourquoi? Expliquez-moi, que je comprenne.
Mais parce que quand il est plus concentré, il ne profite pas de sa plongée, il est plus concentré dans ce qu'il fait, c'est comme un travail. Et en gros, il va consommer plus d'air.
D'accord.
À vrai dire, quand je vais m'approcher, que ce soit d'un animal ou d'une épave, pour faire un bon cadrage, pour faire de bons réglages, inconsciemment, je vais faire une apnée. Donc, et quand j'ai fini ma photo, automatiquement, je vais consommer beaucoup plus d'air. C'est pour ça que, par exemple, je vais parler de Marc. Marc a une consommation très, très basse. Donc moi, je plonge avec, en
parce
général...
Parce que c'est un sportif de haut niveau aussi, ou ça n'a rien à voir, c'est comme ça?
Ben après, c'est par rapport à ça. Il y a plein de paramètres.
C'est physiologique. Hein,
ouais. C'est physiologique.
Prenez le micro, Marc Valitchuk.
Oui, alors moi, j'ai la chance effectivement de ne pas consommer beaucoup d'air. Bon, c'est à la base, c'est physiologique, mais il y a aussi après la condition physique et tout un tas de paramètres, la gestion de la concentration, du self-control, etc. Et Tony, quand il est, lui, dans ses photos, il ne pense plus à tout ça. Quoi. Je veux dire, il est dans sa photo complètement absorbé. Et il ne pense plus et... Donc on se moque de lui, on dit qu'il plonge avec une citerne. Nous, on a des bouteilles, lui, il a une citerne.
Et donc ça peut être un peu dangereux. D'où l'importance de la présence d'Anthony.
C'est mon ange gardien.
En Égypte, il était là?
Ah oui. Ah
et oui, alors?
Bah, il était tout le temps derrière moi.
Mais vous êtes très près l'un de l'autre, Anthony?
Ah oui, on est très près. C'est-à-dire que...
Non, mais après.
Mais parce qu'il faut que vous puissiez contrôler.
Mais disons qu'il faut que je sois, on va dire, à un mètre. Mais de toute façon, tout plongeur n'a pas besoin d'appareil photo. Normalement, on plonge en binôme. Et quand on plonge en binôme, ben, il faut qu'on soit à une main. Il voilà. Faut qu'on puisse toujours l'attraper.
C'est la base.
C'est la base.
Mais qui s'occupe de vous?
Moi.
mais non, vous avez l'œil dans l'objectif.
Moi, j'ai pas de chance.
Et est-ce que, vous ne contrôlez pas du tout ce que fait Marc ?
Mais tout dépend. Normalement, on plonge en binôme. Donc, ouais. Marc plongera certainement avec Stéphane ou quelqu'un d'autre.
D'accord.
De toute façon, quand on plonge, en général, on est... Malgré qu'on soit en binôme, on est tous ensemble. Donc, on a toujours l'œil sur l'un et sur l'autre. Donc, à partir de là, on communique. Je veux dire, on est pas loin. Que ce soit Stéphane, que ce soit Anto, que ce soit Marc. Même quand on fait des photos, en général, on est proches.
Qu'est-ce que vous espérez ramener de cette expédition en Arctique, puisque c'est la deuxième fois que vous avez déjà fait du repérage, hormis vous, évidemment.
Alors déjà,
ils ont vraiment le goût du danger, hein.
Non, le goût du danger, non.
Allez, on va passer ce que j'ai dit. Qu'est-ce que vous espérez
De belles photos.
Ouais.
De belles photos. Et,
il y a un animal en particulier
ou... Ah oui, c'est l'orque.
Ouais.
Ah, c'est l'orque. Quand c'est tu fais une photo d'un orque à 50 cm de toi, c'est le kiff.
Donc vous allez nous ramener des photos d'orques, si tout va bien.
Ah oui, j'en ai déjà fait l'année dernière. Et justement, par rapport à cette première expédition, l'année dernière, j'étais terrifié de me mettre à l'eau, même si j'étais fou d'y aller. Hein. C'est un rêve d'enfant de partir. Enfin, pour moi, c'était un rêve d'enfant de partir en Arctique, de pouvoir plonger avec les orques, avec les baleines. C'est le spectacle que nous offre la nature à cet endroit-là. Je le souhaite à tout le monde de pouvoir le vivre à un moment donné, parce que le temps est changeant, les couleurs elles changent, les animaux sont là ou pas. Donc, et puis quand l'orque arrive vers vous et qu'il est à 50 cm et qu'il faut faire la photo, je me dis, il ne faut pas que je la loupe, quoi. Il ne faut pas que je la loupe.
Mais en tout attention cas, que tu as encore la sécurité derrière toi. Hein.
Ouais, oui,
vous nous faites le plaisir de nous faire partager ce que vous vivez à travers vos images. Donc je rappelle, allez sur les pages Facebook, notamment de Tony Viacard ou encore de Stéphane Le Gallet pour découvrir leurs photos. Allez, vous restez avec nous.
Need is 5 minutes if you can see the sign. All I need is 5 minutes if you read between the lines. One for the eyes and one for the voices. One for the touch, one for the soft grin, and then the kisses. And then the kisses.
Ils sont plongeurs, sous-marins, mais également photographes, parfois porteurs de lampes, ou encore maîtres de la sécurité. Marc Valicioni, Anthony Nisery, Tony Viacard et Stéphane Le Gallet. Trois d'entre eux partiront mercredi pour une très belle expédition en Arctique. Ils l'ont fait l'année dernière, ils y retournent, ils nous ramèneront de très belles photos. Est-ce que vous avez eu des gros coups de frayeur ? Avec une murène, tiens. Non, Anthony
a... ben, je pense qu'Anthony, il a eu la frayeur de sa vie avec, avec le requin.
Pas du tout.
Jamais de la vie.
Jamais.
Je crois qu'il a, il, dans sa tête, il chantait « Plus près de toi, mon Dieu » quand il a vu arriver.
Non, à vrai dire, le requin, on est parti le chercher.
Ouais.
C'est vrai.
C'était
vrai.
Où, ça?
C'est en Égypte.
Ouais.
On était fous, on n'arrivait pas à le trouver, et tout le monde qui le voyait, sauf nous, on devenait fous. Voilà, donc, mais par contre, à un moment donné, Tony, quand tu faisais la photo, j'ai dit, Tony, viens, il y a une belle murène. Sauf qu'il ne s'est pas approché.
Et finalement, vous l'avez trouvé, ce requin?
Oui.
Bon.
Mais on a eu la chance de le trouver. Enfin, on a trouvé quelques-uns, hein, d'ailleurs. Trouvé le requin marteau, un longimanus.
Ben, moi, j'ai eu la chance de faire le requin marteau. Mmh. Parce que justement, ce qu'il disait Anthony, c'est qu'on était sur un site où, par rapport justement au réchauffement climatique, l'eau était trop chaude en surface. Et le requin a besoin d'eau froide, enfin d'eau moins chaude, on va dire. Voilà, tempérée. Et donc les requins n'étaient pas au rendez-vous, donc il a fallu aller les chercher très profond. Donc moi j'ai fait une photo justement de ce requin marteau.
Mais très profond, c'est combien ? 60.
Faux, 40 en Égypte.
Voilà, à vrai dire, la législation en Égypte est de 40 mètres.
Ah,
on n'a pas le droit de
donc
descendre.
Très profond, 40 mètres.
40, c'est voilà. Ça, voilà, exactement.
Oui, la sécurité n'a pas été.
Mais on l'a fait. Voilà, ouais. On l'a fait, donc le but, il était atteint. Mm. Et justement, après, Anthony a dit, on ne peut pas rentrer sans faire... le requin.
Impossible.
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 Et on l'a cherché, et Anthony ça a été notre appât. Il y a un moment donné, on a dit, Anthony, écoute, soit tu te fais manger, soit on rentre pas sans photo. Et il a été le chercher, et bon, on a eu la chance qu'il passe très très près de nous, et on a pu le photographier.
Allez, hors antenne, tout à l'heure, Stéphane Le Gallet a dit que vous étiez vraiment un binôme exceptionnel, que de toute sa vie, il n'avait jamais eu...
Mais ça, c'est parce que je lui ai fait un chèque avant de venir.
Il se sent en sécurité avec vous, c'est ça que vous avez dit, qu'il était incroyable dans l'eau.
Oui, non, mais depuis le temps que je plonge, j'ai toujours plongé en autonomie, c'est-à-dire à deux personnes, parce que le groupe, moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Et c'est vrai que Tony, c'est la seule personne depuis que je plonge, qui est très sécuritaire. Moi, je suis beaucoup moins sécuritaire, j'ai tendance
à
vider mon bloc,
ouais.
À ce qui se déforme, vraiment prendre le maximum d'air, et donc rester au fond à faire des photos, et Tony gère très très bien la plongée, remonte, et me fait des signes en me disant « il faut remonter ». J'ai déjà vu à travers le masque où la lentille a sauté, et ça, quand je vois la lentille sauter et qui vient taper la vitre...
Ça rappelle à un inventeur, parce que Tony a les lentilles qui sautent quand il... en plongée sous-marine.
Mais même à terre, hein, de temps en temps, quand il chauffe un peu, il a les lentilles qui sautent.
Voilà, les lentilles oculaires, vous l'avez compris. Marc Maliccioni, vous qui êtes aussi un plongeur de tôle, puisque c'est l'expression de Stéphane qui nous a donné tout à l'heure, plonger avec des gros animaux comme des orques ou des baleines, c'est quelque chose qui vous excite autant qu'une épave?
Ah oui, ah bon. Ça c'est un rêve d'aller voir ces gros mammifères. Et donc quand Tony m'a parlé de cette expédition, j'ai dit oui tout de suite, quoi. Et en plus, il y a un autre rêve d'enfant que j'espère que je vais réussir à réaliser, c'est les aurores boréales. Alors j'ai eu la chance de partir depuis plusieurs années dans le Grand Nord canadien, faire des expéditions en motoneige. J'ai jamais eu la chance, jusqu'à l'année dernière où je suis allé en Laponie avec Ari Vatanen, rouler dans les forêts finlandaises, etc. Et j'ai pas eu la chance toujours de voir les aurores boréales.
Ouais.
J'espère que cette fois-ci, et puis comme ça, c'est ne serait-ce que même pour le plaisir des yeux, pour tous les...
De toute façon, Anthony va pas lâcher. Hein.
Ben, à cause de Marc, on en verra pas.
Non, il va pas lâcher. Comme pour le requin.
C'est un porte-bonheur, Tony. Ce qui est impressionnant, en parlant de Tony, pour lui faire un compliment, oui, comme dit Stéphane, c'est qu'il a un véritable détecteur. C'est pas des yeux, c'est pas un nez, c'est un détecteur. C'est-à-dire, nous, on va passer 20 fois devant un truc sous l'eau, on va pas le voir, et lui, il va le voir. Et ça, c'est quelque chose. Alors, ça, c'est juste avant que les lentilles elles sautent, hein, en fait, hein, parce qu'après, il les voit plus.
Ça, c'est inné.
Mais il a ce petit don qui fait qu'il arrive à voir des choses que nous, on ne voit pas.
Thomas Brondini, bonsoir.
Ah, bonsoir tout le monde.
Vous pouvez l'applaudir à l'habitude d'arriver sous les applaudissements.
mon fradier du marché.
Eh oui, pas de mash-up ce soir.
Pas de mash-up ce soir.
Mais une chanson.
Ah, d'accord.
Je suis trop forte.
Je suis à l'envers.
Parce que je vous explique. Parce que normalement, il n'arrive jamais à chanter sa chanson en live. Et ce soir, j'ai tenu le pari, comme pour le requin et comme pour les aurores boréales, qu'il arriverait à la chanter.
Ah.
Vous préférez chanter votre chanson ou faire le mash-up?
Moi, je préfère les deux.
Non, choisissez.
Ah, je choisis. Alors, je choisis une chanson, allez.
Vous voulez jouer ou vous voulez écouter une chanson?
Un peu quand même, non?
Non, il va chanter.
Allez. On écoute. Hein.
C'est vrai?
Oui. Allez, préfère écouter une chanson.
En plus, il n'y a pas Eric Salvary, il va pouvoir chanter juste.
Car Eric Salvarelli est du marché également. Voilà.
C'est la Magagne de chez nous.
Le quartier du Mercat de Bastia, pour ceux qui ne sont pas de Bastia.
Spéciale dédicace.
Perdicio, quanto sono fiero di ciò che tu m'hai imparato, per un conosce la dispero. Come spiegati a te o ma che tutte le mie stonde strane mi laivate subranà. E se non c'era l'indomane, perdivi tutto lo mio amore, o trimule di aile mio mone, a ben amara di lo mio cuore. Se non c'era l'indomane, io libere sedi a fianco e a paccia li do a fani, io ni ghie io di manco. Perdivi tutto lo mio amore di ciò che tu m'hai imparato, mi sono sbagliato. Perdivi tutto lo mio amore, udri mule di le mio mane, a ben amara di lo mio cuore. Se non c'era l'indomane, se non c'era l'indomane.
C'est l'émotion.
Magnifique. Vous êtes bien accueillis ce soir. Hein. On a même un musicien en live spécialement pour vous, Tony.
Merci.
Viacar, merci avec merci une spéciale dédicace, parce qu'il paraît que vous aimez beaucoup cette chanson.
Oui, et ben c'est. Et à vrai dire, j'ai essayé de me retenir parce que j'ai perdu mon papa il y a pas si longtemps que ça. Et cette chanson.
C'est une chanson que vous aimez particulièrement.
À vrai dire, alors pour la petite histoire, alors je vais te dire, à vrai dire, je suis parti en Arctique exprès. Parce que quand j'ai perdu mon père, c'était en mois de septembre, et je me suis dit que de le voir au plus près, il fallait que je monte au pôle Nord. Et c'est pour ça que je me suis décidé de monter en Arctique l'année dernière, à la même époque.
Et vous y retournez.
Et j'y retourne.
Mercredi, pour 9 jours d'expédition et pour essayer donc de prendre de belles photos d'orques et de baleines et les aurores boréales. Il faudra, Marc, il faut qu'il fasse des photos quand même pour prouver au reste du monde.
C'est pour ça que je l'emmène.
Un mot sur l'Égypte, ça arrive au mois de mai.
C'est ça, l'expédition, on va partir au mois
Stéphane
de mai.
Stéphane aussi va partir.
Ben oui, alors Stéphane, vas-y, à toi.
Bah en fait, Tony m'en a parlé, mais il m'a dit pour que ça soit gratuit, il faut que tu donnes des cours photo.
Ouais, mais c'est
donc
bien,
j'ai
ça.
Dit oui, mais de toute façon, on le fera ensemble. Donc en plus, on a quelques mois pour préparer un peu des flyers, tout ce qu'il faut pour pouvoir faire ces cours photo. Bon, après, il y aura des gens qui font déjà la photo, donc on aura peut-être leur donner des astuces, mais ça reste tout en modestie.
Est-ce qu'il reste des places ?
Il y en a une là, il est en face. Alors, là. Il faut qu'il vienne.
Alors, il reste pas beaucoup de place.
Parce que
dire.
C'est plongée et cours photo, c'est quoi
c'est
le
ça,
principe
oui. Le principe, c'est qu'on va emmener des gens. Nous allons emmener des personnes qui font de la photo en général. Et comme disait Stéphane, sans modestie aucune, on va essayer de les corriger. On va essayer de leur apprendre à faire de la photo et de pouvoir. Leur permettre d'évoluer, si c'est possible.
Donc il faut forcément plonger ou on peut faire un baptême de plongée sur le bateau comme
alors,
ça
l'avantage du bateau, c'est qu'il y a des moniteurs. Les gens peuvent faire un baptême de plongée, peuvent passer leur niveau, leur d'accord. niveau 1 ou leur niveau 2.
Vachement
à
bien.
Savoir que il faut au moins avoir, je dirais, le niveau 1 pour partir dans ce genre d'expédition, pour pouvoir descendre au moins à 20 mètres.
Ça, c'est une condition, puis il faut être aussi hyper sympa.
Il faut être hyper sympa et super aquatique aussi.
Et super aquatique.
Oui, parce qu'après, je perds mes lentilles.
Et savoir faire la fête un peu le soir, quand même.
Eh ben non, non. La fête, c'est modéré parce que, justement, pour revenir à la sécu...
mais la fête sans alcool, la fête
oui,
chanson.
Oui, la fête chanson, oui, voilà. Non, voilà, parce que le principe, c'est que on va faire 4 plongées par jour. Donc, on fait des plongées très tôt le matin. On fait des dessats. La dessat, c'est-à-dire que on va mettre un temps entre les plongées pour pouvoir récupérer.
Évacuer l'azote.
Voilà, pour évacuer l'azote qu'on a dans le sang. Et on fait 4 plongées par jour. Et justement, il faut qu'on soit en forme. Il faut avoir quand même un peu de physique pour tenir toute la semaine.
Alors, si on a envie de se rapprocher de vous, les réseaux sociaux.
Les réseaux sociaux, oui, essentiellement.
Sur vos pages, que ce soit Stéphane Gallet ou bien Tony Viacard.
De toute façon, oui, de toute façon, tout le monde est identifié. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que lors de notre expédition, là, de mercredi, je vais communiquer énormément sur les réseaux sociaux.
On pourra vous suivre dès que vous avez de la connexion.
C'est ça, tout à fait. Dès qu'on aura un peu de connexion, parce que bon, on est quand même très loin et on n'a pas beaucoup de Wi-Fi. Mais dès qu'on en aura un petit peu. On mettra des photos, on mettra des vidéos, en espérant que ça se passe comme l'année dernière, parce que l'année dernière, on a eu de la chance, on a eu du beau temps, on a eu des orques, on a eu des baleines, et on a eu les aurores boréales.
Oh, je rêve. L'année dernière, ils les ont eu, cette année, il n'y en aura pas. Non, je plaisante. Alors, Marc Valichon, il y aura des aurores boréales.
J'ai racheté un fart ouvert pour lui...
Et vous nous passerez un petit coup de fil ?
Oui, volontiers.
Ça, ce serait sympathique qu'on vous ait au téléphone pour que vous nous racontiez.
Sans problème.
Durant l'expédition. Hein, Anthony, vous pourrez nous appeler.
Tout à fait.
Pendant l'expédition. En tous les cas, on vous souhaite de vous régaler, de nous ramener de très belles images et de bien profiter de cette expédition en Arctique. La prochaine, ce sera en Égypte. Si vous êtes intéressé, si vous êtes photographe, que vous êtes sympa, que vous avez un peu de physique et que vous avez envie d'y participer, il reste très peu de place. Mais on peut se rapprocher de vous, Tony Viacard, ou encore de Stéphane Le Gallet. Ils vont faire un casting, je pense.
Voilà. Oui, non. Mais par contre, avant de conclure.
C'est curieux, vous ne m'avez pas demandé de venir, je comprends pas pourquoi.
plaisanterie mise à part, je voulais quand même te remercier justement de pouvoir nous laisser parler et de faire connaître ce que l'on fait, de faire connaître aux gens la plongée, les photos et de pouvoir protéger nos océans aussi.
Et puis on attend l'exposition et vous reviendrez pour parler de l'exposition photo.
Volontiers.
Quand elle aura lieu. Merci beaucoup à tous, à Cécilia, à Anthony, à Thomas,
merci,
à Marc,
merci,
à Stéphane,
merci, Marie.
Et
merci.
À Tony et à Doumec qui réalisait cette émission ce soir.
France Bleu RCFM.
Qui peut concurrencer MAF Pro ?
Pour ma santé, comme pour les miens, bien protégé, je suis serein. Des garanties, moi qui suis pro, je préfère MAF Pro.
MAF Pro pour la santé individuelle, ce sont de nombreuses garanties et des offres modulables pour prendre soin de vous et de vos proches.
Moi qui suis pro, je préfère MAF Pro.
Plus d'informations au 3015, service et appel gratuit ou sur maf.fr.
La plus belle façon de conquérir l'espace, c'est avec les vérandas Rénoval. Rénoval, véranda et extension, l'espace s'invente sur Terre.
La paire. Ah, votre nouveau plan de travail, où vos talents culinaires peuvent maintenant s'exprimer sans entrave, sans cette cafetière et ses bocaux, mais avec vos enfants, qui ont trouvé l'endroit idéal pour cuisiner avec de la pâte à modeler. Enfin, vous leur pardonnez vite, car vous avez profité des moins 15% sur les meubles de cuisine et plans de travail chez La Paire, valable jusqu'au 25 novembre.
La Paire, le savoir bien faire. Cuisine, salle de bain, menuiserie.
Conditions sur lapaire.fr.
La météo avec Agir Plus d'EDF, la collectivité de Corse et l'ADEME. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
Bonsoir à tous, un coup d'œil sur le temps pour cette nuit, le temps sera variable. Il y aura quelques averses possibles de ci et de là. Il va pleuvoir à tout niveau, puis la limite plus neige s'abaissera progressivement à 2400 mètres en seconde partie de nuit. Puis en fin de nuit, les éclaircies seront plus belles. Les quantités de pluie prévues pourront atteindre 15 mm.